Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je retrouve Dan Geiselhardt, auteur, journaliste et cofondateur des médias Tech Trash, Climax, ainsi que du studio de newsletter Courriel. Après son premier passage il y a quelques années dans le podcast, Dan revient avec moi sur la grande tendance des newsletters, leur impact dans le cadre de la stratégie des marques médias et sur les stratégies pour passer d'une liste d'emails à une communauté vibrante. Bonne écoute! Salut Dan!
Hello!
Bienvenue dans The Storyline!
Ben, merci de me recevoir à nouveau.
Ah oui, à nouveau, deuxième édition.
C'était quand la première fois? C'était il y a 2-3 ans?
Ouais, je pense que c'était en 2021, ouais. Peut-être. Ça fait un petit bout de temps, le temps a passé depuis, plein de choses ont été construites de ton côté.
Exactement.
J'ai hâte d'en savoir un peu plus.
Ben, moi aussi. Et je vais apprendre plein de choses.
Oh, tu crois?
Normalement, quand on raconte les choses qu'on a faites, il y a toujours des révélations, genre « Ah ouais, tiens, en fait, j'ai fait ça, c'est fou. »
Oui, c'est vrai, connecter les points a posteriori.
Ouais, c'est marrant.
Ok, très bien, faisons ça, partons en exploration. Et avant de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui a été construit depuis la première interview où tu nous parlais de Tech Trash que tu as cofondé.
Oui.
Tu as également cofondé Climax, ainsi que Courriel, le studio de Newsletter. Tu es journaliste.
Oui.
Est-ce que tu veux bien nous refaire un petit coup d'éclairage sur ton parcours rapidement et, oui. Et sur ce qui a été fait depuis Tech Trash.
Qu'est-ce que je peux te raconter? D'une part, qu'il y a une dizaine d'années, j'ai cofondé un média sur l'innovation qui s'appelait à l'époque Silex ID, qui était un magazine papier dans la veine de Ouzbek Erika, Oui Demain, l'ADN. On l'a lancé en 2014 jusqu'en 2017,
okay.
Donc avec une sortie en kiosque. Et moi, ça a été un peu mes premiers pas dans le monde de l'innovation et de la tech. Un monde que j'ai, je vais être très franc, un peu découvert. Alors, je le connaissais un petit peu, mais on va dire j'ai découvert un peu ses arrière-cuisines à ce moment-là.
Ouais.
Et ça m'a donné envie ensuite de raconter un peu plus les arrière-cuisines de la tech, parce que je me disais, tiens, c'est quand même fou, il y a quand même plein de trucs à raconter que les médias ne disent pas forcément.
Oui.
Des fois, plein de trucs absurdes. C'était aussi le début de tous les discours inspirants. Enfin, c'était pas le début, il y en avait déjà avant, mais en tout cas, voilà, ça nous semblait un peu... ça nous semblait être vraiment une matière intéressante à exploiter. Et en 2017, donc, je rencontre Lorraine Boudard, qui travaillait à l'époque à la French Tech, qui est devenue mon associée.
Mm-hmm.
Et avec laquelle nous avons donc monté le projet, la newsletter Tech Trash, qui à la base de façon complètement anonyme. On voulait juste faire un. C'était un side project en fait. On faisait chacun d'autres activités et on se disait, tiens, on a envie d'avoir ce média qui raconte ce que les autres médias ne racontent pas sur les startups, sur la tech, parler des innovations absurdes, parler des discours bullshit. Et le faire un peu en mode pirate.
Avec, je me permets de le préciser, beaucoup d'humour, une plume extrêmement appréciable.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Vu que je faisais partie des lecteurs à cette époque-là. Et ce côté vraiment brillant de rester anonyme, parce que je bossais pour un accélérateur de start-up à l'époque.
Mm-hmm.
Et c'était un peu le jeu tous les jours de dire, mais qui est derrière Tech Trash? Et vraiment, les paris allaient bon train.
Ouais, ça nous faisait marrer, tu vois. Et puis, il y avait ce truc où, justement, il y a aussi, à cette époque-là, LinkedIn n'était pas encore aussi fort qu'aujourd'hui, mais je me rappelle, il y avait Medium, il y avait... En tout cas, il y avait déjà le début de ce truc d'incarnation, de se raconter. Ouais. Et donc, on s'est dit, en fait, on ne va pas faire ça, nous, on va aller complètement à contre-courant de ça. Et donc, on l'a fait de façon anonyme. Et ce n'est que, je dirais, un an ou peut-être même 2 ans plus tard, quand on a publié notre premier livre, Les Possédés, qu'on est entre guillemets sorti du bois, quand bien même on n'était pas des stars dans le milieu, mais je veux dire en tout cas qu'on a publié nos noms et que les gens ont pu savoir qui était derrière Tech Trash, c'est à ce moment-là, quand on a sorti Les Possédés, fin 2019 chez Arquet, aux éditions Arquet. Et donc voilà. Et de fil en aiguille, ça nous a poussé à creuser plein de choses, à la fois les sujets tech qui nous passionnaient et qui nous passionnent toujours. Et donc on a continué Tech Trash. Et on a aussi le format newsletter qu'on a un peu qu'on a pris. Alors, je ne vais pas dire par hasard, mais en fait, évidemment, on se disait qu'il y avait un truc spécial avec ce format en 2017. Mmh. Mais il faut se rappeler qu'en 2017, il n'y avait pas Substack.
Oui.
Substack a été monté fin 2017 et donc a commencé un peu à...
Populariser plutôt en 2020, non ?
Ouais, exactement, en 2019, 2020, dans ces années-là, tu vois. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, c'était 2018, 2019. Et en France, c'est arrivé encore plus tard. Et donc, il n'y avait pas encore cette hype. Il y avait déjà des newsletters, hein, on n'était pas les premiers. Il y avait Time to Sign Off, bien avant nous, qui ont été les premiers, et puis les seuls quasiment pendant longtemps. Alors après, il y avait d'autres personnes et d'autres médias qui faisaient des newsletters très bien. Mais on va dire que ça restait quand même un format un peu alternatif. Quand tu lançais un média, a priori, tu le lançais. Déjà, tu lançais un site. Idéalement, tu te lançais sur les réseaux sociaux. Mais on a bien vu aussi que ça avait des limites. Tu vois, les médias qui se sont lancés dans les années 2010, ils avaient tous des pages Facebook, ils avaient parfois des centaines de milliers d'abonnés, et puis d'un coup, Facebook a coupé le robinet.
Ouais.
Et du coup, a dit, bah non, maintenant, même, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, si vous mettez pas de l'argent en face, si vous payez pas à chaque fois que vous faites une publication, en fait, personne va voir vos publications. Et donc, nous, en fait, quand on a vu ça, on s'est dit, en fait, ça va être toujours la même chose. Et on l'a bien vu avec Instagram, c'est devenu la même chose. Aujourd'hui, il y a encore des réseaux sociaux où tu peux faire du contenu sans forcément payer et créer le buzz, c'est possible. Mais en fait, nous, on s'est dit, on a envie de se sortir de
cette dépendance
de cette dépendance cyclique à ces grosses plateformes qui finalement, en fait, en plus, finalement, s'intéressent pas vraiment tant que ça aux médias en tant que tel. Et d'ailleurs, ils se voient, toutes ces plateformes-là, leur discours, c'est de dire on est juste des canaux et en fait, les médias, on s'en fout. Et donc, OK, quoi. Fine. Mais donc, nous, on s'est dit, en fait, on va s'affranchir de ça. La newsletter, c'est vrai que ce format est quand même spécial parce que tu arrives chez tes lecteurs directement dans la boîte mail. Donc, il y a quelque chose de très personnel, de très intime. On l'a vu, du coup... Vu qu'on a commencé Tech Trash fin 2017, mais on va dire que ça s'est vraiment lancé en 2018. Donc tu vois, maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans presque. Enfin, ouais, ça fait 6 ans, je pense, qu'on connaît ce format. On l'a ensuite... on a lancé le deuxième projet média qu'on a fait Climax en 2021, pareil, en newsletter. Donc c'est un format qu'on maîtrise bien. Et voilà, comme je disais, il y a donc un rapport intime avec le lecteur. Tu t'affranchis des algorithmes, des plateformes. Il y a tout un tas de raisons qui font que pour nous, c'est un format qui vraiment qu'on aime et qui nous ressemble, qui est indépendant, qui est direct, dans lequel tu peux développer un ton. Et c'est la raison pour laquelle on a monté notre studio de newsletter qui s'appelle Courriel.
Yes.
Je pourrais plus te dire la date à laquelle on l'a monté officiellement, mais en tout cas, je pense que c'est à partir de 2020 qu'on a commencé en fait à travailler avec d'autres boîtes, d'autres médias. Je crois que d'abord, ce sont des médias qui sont venus nous voir pour nous dire tiens, nous, par exemple, on fait un magazine ou on fait un site, on aimerait bien faire une newsletter, on a vu ce que vous faisiez, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils ? Et tu vois, de fil en aiguille, au début, c'était plus du conseil, des fois même un peu informel. Et après, on s'est dit, tiens, en fait, on peut professionnaliser ça. On peut se faire payer pour ses conseils. Et puis après, on a des boîtes qui sont venues nous voir en nous disant, en fait, on adore ce que vous faites. On a envie de faire une newsletter. On ne sait pas faire. On n'a pas envie de faire. Donc, faites-nous la newsletter clé en main.
C'est parti.
Et, et voilà. Et après, nous, évidemment, parce qu'on a aussi cet ADN indépendant et de vouloir faire des trucs qui ont du sens, on a pas fait tous les trucs qu'on nous a proposés. Il y a des projets qu'on a refusés.
Oui.
Soit parce qu'vraiment ils correspondaient pas du tout à notre tu vois, à ce qu'on est, et en fait on n'avait pas du tout envie d'inventer un projet média pour certaines boîtes, juste parce que vraiment ça nous parlait pas, ou alors parce que leur c'était pas du tout cohérent avec notre avec ADN. Nos valeurs, quoi.
Ouais.
Et par contre, il y a des fois où clairement on l'a fait, et puis il y a aussi des institutions publiques qui sont venues nous voir, et voilà. Et aujourd'hui, en gros, on a ces trois activités. On a Tech Trash en média, toujours, qui existe en tant que newsletter, qui est désormais d'ailleurs chez Kessel. Donc une plateforme française qui s'est lancée, je crois, il y a un peu plus d'un an. On pourra en parler aussi, parce que c'est intéressant et je pense que c'est une très bonne chose pour l'écosystème newsletter en France que cette plateforme se soit lancée. Donc ensuite, on a notre studio courriel, dans lequel on fait tout un tas de projets avec des entreprises, avec des institutions publiques, avec des médias. Et on a Climax, qui est le média qu'on a lancé sur l'écologie, d'abord en newsletter en 2021 et ensuite en format papier en 2022, vu qu'on n'avait pas assez de boulot avec tout ça. On s'est dit, on va encore
se
rajouter un petit truc en plus. Tiens, voilà, en plus, un format papier, un magazine papier en 2022, c'est vraiment le truc idéal à faire, évidemment.
Quelle bonne idée.
Vu que tout le monde achète des magazines papier. Voilà, quelle bonne idée, tu vois.
Un modèle économique qui a fait ses preuves.
Voilà, exactement. Donc voilà, non mais ça c'est pareil, tu vois, en fait c'est marrant parce que plein de gens nous ont dit, mais en fait, pourquoi vous faites ça, c'est absurde. Et c'est vrai, c'est un peu absurde, mais je pense que nous, ce qui nous, en fait, ce qui nous pousse dans la vie d'ailleurs, en plus, enfin dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, c'est de faire des trucs qu'on aime faire et des trucs parfois improbables.
Oui.
Et voilà, parfois des trucs qui ont peut-être pas forcément de sens tout de suite sur le plan économique, mais en fait, on s'est dit, on avait trop envie de faire un format papier parce qu'on est fan des formats papier, des magazines et puis des fanzines aussi. Parce que, en fait, Climax, le format papier, nous, on l'appelle un fanzine. Alors, ça ressemble à un magazine. Je pense que toi, tu l'as déjà vu. Donc, c'est comme un magazine. C'est juste que le côté fanzine, ça nous permet de dire qu'en fait, on fait un peu ce qu'on veut à l'intérieur. On n'a pas besoin de suivre des rubriquages classiques. On peut avoir une liberté de ton, on peut avoir une liberté de mettre tout ce qu'on veut dedans. Alors, ce qu'on pourrait aussi avoir si c'était un simple mag, mais en fait, on aime bien aussi l'héritage fanzine.
Ouais.
Tu sais, le fanzine, ça vient...
Déjà, je pensais que c'était fanzine.
Ouais, fanzine. Non, mais c'est vrai que je le dis...
Très bien.
Je l'ai francisé.
Et quelle est la diff avec un magazine?
Le fanzine, historiquement, c'est dans les années 70, 80, c'est des petits jeunes qui étaient fans de groupes de rock... en Angleterre notamment, qui étaient fans de punk, de ska, et des groupes qui n'avaient pas pignon sur rue, voilà, et que tu ne voyais pas dans les magazines. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va faire nos propres magazines, mais vraiment en mode à l'arrache. On va prendre des feuilles A4 qu'on va imprimer, ou on va les relier avec des agrafes, et on va les vendre soit à la sortie des concerts, soit à la sortie de notre fac ou de notre lycée.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment le fanzine original, quoi.
Trop bien.
C'est le magazine écrit par des fans. Et en fait, aujourd'hui, tu continues d'avoir des fanzines, il y en a toujours. Et il y a une fanzinothèque à Paris, il y en a une à Poitiers, qui est, il me semble, la plus grande d'Europe, si ce n'est du monde.
Wow.
Et en fait, donc, c'est des endroits où tu trouves des magazines amateurs.
Indie, ouais.
Voilà, indépendants, qui sont faits par des gens qui ne sont pas des journalistes.
Okay.
Et donc, tu as des pépites, tu as des gens qui font des trucs. Alors, évidemment, tu as plein de trucs qui n'ont pas un intérêt, à part si tu es vraiment... hyper à fond dans le sujet dont ils vont parler. T'as plein de trucs de gens qui sont des graphistes, tu vois, qui vont faire des projets un peu expérimentaux. T'as en effet des trucs beaucoup sur la musique, sur le cinéma, tu vois, sur des genres en particulier. Et en tout cas, nous, ce qu'on aime dans le fanzine, c'est vraiment ce côté liberté. C'est ce côté de se dire que des gens sont pas journalistes, sont pas des pros. Et du coup, ont une approche du format très naïve, très spontanée.
Mm.
Et c'est pour ça qu'on s'est appelé fanzine. Et d'ailleurs, on est allé plusieurs fois justement à la fanzinothèque à Paris pour aller diguer, des fanzines de toute la France ou même d'ailleurs, pour voir un peu ce qui, pour trouver l'inspiration en fait.
Très bien.
Et pour se dire, on a envie de faire. De reprendre une idée là. Enfin, tu vois, c'est comme une sorte de truc de sample en fait. Pour moi, de toute façon, moi je dis toujours, généralement, on n'invente rien, on va reprendre plein de trucs à droite, à gauche, et puis finalement, le truc qu'on va faire après, ça va être nouveau, parce que voilà, on aura tellement d'inspiration partout. Et pour moi, c'est un peu ça, tu vois, c'est Climax, le fanzine, c'est des dizaines d'inspirations graphiques, éditoriales qu'on a reprises, et puis mélangées à tout le contenu, évidemment, dont on a envie de parler, qui est nouveau sur l'écologie et la façon dont on a envie de raconter l'écologie aussi. Ça, c'est vraiment notre ton à nous, c'est-à-dire de raconter l'écologie de façon enthousiasmante, positive, mais pas bisounours. un peu badass, en fait, qui t'emmène, quoi.
Ouais. Justement, alors, il y a tellement de choses
sur lesquelles
rebondir. Peut-être, alors, pour commencer, du coup, Tech Trash, qui raconte un peu les backstage de la tech de manière un peu humoristique, critique, et je rajoute aussi, avec beaucoup d'intelligence et de prise de recul. Et
merci beaucoup.
Posant des...
C'est
je jette beaucoup de fleurs depuis le début, il faudrait peut-être que j'arrête. Enfin, en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment hyper chouette, c'est qu'au-delà de la forme que vous avez choisie, qui était assez nouvelle à cette époque-là, il y avait aussi le fond et la capacité à poser des questions qu'aujourd'hui on se pose un peu plus, qui était, mais en fait, où est-ce que ça nous amène toute cette technologie, toute cette course à la croissance, toute cette glorification des founders, etc. D'aller proposer des points de vue un petit peu alternatifs, comme ceux de chercheurs, d'anthropologues, de faire une veille assez poussée sur ces sujets-là, avec toujours une opinion un peu à contre-courant. Donc ça, j'avais trouvé ça génial. Et on y reviendra sur la tonalité. Et ensuite, bah, vous avez lancé Climax dans la lignée de tout ça. Est-ce que tu peux rapidement pitcher Climax, pour les personnes
oui,
qui ne connaissent
Climax,
pas.
Oui, Climax, c'est à la base une newsletter, donc un média d'abord sous format newsletter et après sous format magazine. Je suis désolé, hein, parce que du coup, j'ai raconté
le
magazine avant de raconter ce que c'était vraiment. Ce que c'est vraiment.
À contre-courant, comme d'hab, on ne respecte pas les formats
exactement,
classiques.
Exactement, on ne respecte pas les règles, on part dans tous les sens. Du coup, pour le lecteur, l'auditeur, l'auditrice, ce n'est pas forcément agréable, désolé. Mais donc, Climax, c'est un média qui raconte l'écologie avec un ton marrant, sarcastique, enthousiasmant. Vraiment, le postulat de départ, c'est de dire que l'écologie, c'est un sujet... essentiel, il faut qu'on en parle parce que ça nous touche tous, le monde va changer, on va faire une transition écologique, en tout cas on va essayer collectivement de le faire, une transition énergétique, on est obligé de ça parce que les scientifiques nous le répètent depuis des dizaines d'années, là on va dans le mur. Et par contre, ce qu'on a constaté nous, cette problématique scientifique était racontée dans les médias de façon scientifique, donc par essence un peu complexe à comprendre pour celui qui n'est pas initié, et aussi un peu chiante, il faut le dire quand même. Si t'es pas, enfin, souvent aujourd'hui on a tendance à vouloir être diverti par les médias qu'on consomme, et donc ça c'est pas forcément le truc le plus divertissant possible, et aussi anxiogène, c'est-à-dire que souvent quand on lit quand on regarde un documentaire, je pense que c'est encore plus marquant quand on regarde un documentaire, une vidéo sur le réchauffement climatique, bah on va être déprimé, on va se dire mais en fait c'est la merde, je préfère finalement éteindre mon écran et me dire que je continue ma vie parce qu'en fait sinon je vais être déprimé toute la semaine.
Oui.
Et donc on s'est en partant de là, on s'est dit ok, il faut qu'il y ait des médias qui racontent ça différemment. Sans pour autant dire non, vous inquiétez pas, tout est génial, on va y arriver, mais plutôt en disant on est devant une grosse problématique, mais si on s'aimait tous ensemble, on peut résoudre le problème, et surtout en fait on peut s'inspirer mutuellement avec des histoires, avec des récits positifs, enfin le mot positif, il est toujours à double tranchant parce qu'on a tendance à penser que ça va être bisounours,
mais
positif dans le bon sens, quoi.
Oui.
Dans le sens où ça t'emmène,
okay.
Et ça te donne envie de changer aussi ta vie, de changer la façon dont tu travailles, la façon dont tu regardes le monde, la façon dont tu regardes l'avenir. Typiquement, un exemple, c'est la façon dont on se projette dans les 20-30 prochaines années. Donc avec Climax, on s'est posé cette question et on s'est rendu compte que dans les imaginaires collectifs qu'on avait tous ensemble, il y avait quasiment que des dystopies. Souvent, quand tu demandes autour de toi comment est-ce que tu penses que le monde sera en 2060, 2070, 2100, en fait, les images qui te viennent, ça va être Mad Max, ça va être ou alors ça va être des univers ultra-tech pour les riches et par contre, vraiment le bordel pour les pauvres.
Ouais.
Tu vois, type des films de SF comme Elysium. Et pourtant, il y a aussi des récits positifs, il y a des utopies qui existent, mais en fait, elles sont assez peu visibles.
Oui.
En tout cas, beaucoup moins que les dystopies. Et ça, c'est pour tout un tas de raisons, parce que je pense qu'on est attiré aussi par les récits un peu catastrophes. Mais en tout cas, il s'avère qu'il faut amener cette deuxième voie, cette voie alternative, et raconter ces autres récits de façon à pouvoir se projeter. Parce que nous, on part du principe que si on ne peut pas imaginer le monde dans lequel on veut être, bah, on ne va pas pouvoir le créer, parce qu'il faut l'imaginer avant de le créer, et avant de collectivement de tous aller dans un certain sens ensemble. Et donc, typiquement, voilà, c'est le genre de choses qu'on va raconter dans Climax. Et tout ça avec un enrobage, comme on sait faire, enfin, comme on essaye de faire, c'est-à-dire avec un ton drôle, avec un univers très pop, très coloré, très graphique. Et justement, qui va à contre-courant des médias écolos. Donc, pas de verre, pas d'actualité sur l'écologie du moment, parce qu'en fait, y a d'autres médias le font déjà.
Oui.
Et parce que nous, on pense que c'est pas ça. En tout cas, nous, notre mission, c'est pas de raconter voilà, aujourd'hui l'actualité du parti écologiste ou la dernière COP. Alors, on peut réagir dessus avec un truc un peu marrant, mais l'idée, voilà, c'est plus d'être dans les récits, dans un discours qui va t'emmener et qui va te faire comprendre que l'écologie, ça va être bien pour toi.
Oui.
Et prendre ce sujet à cœur, ça va être justement une façon de rendre ta vie meilleure qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que plein de gens, en fait, ne se sont pas posés cette question-là et pourtant se rendent bien compte que, en fait, le monde dans lequel on vit, il est bourré d'absurdités. On surconsomme comme des malades, on mange régulièrement n'importe comment et pas de notre faute parce que en fait les bons aliments, les bons produits sont chers. Enfin, il y a des tonnes d'exemples qui font que on est régulièrement en dissonance cognitive, tu vois. Et donc il faut arriver à sortir de ça, mais encore une fois ensemble. Et bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire à titre individuel, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire à titre collectif. Et donc, nous, on ne veut pas culpabiliser l'individu et dire « Ah bah non, là, tu prends encore l'avion, machin. » On va évidemment expliquer que ce n'est pas terrible et voir que c'est un peu le pire truc à faire quand tu as une conscience écolo. Mais par contre, on va aussi expliquer que derrière tout ça, en fait, il y a un système dans lequel on vit. Et que,
oui, il y a d'autres logiques. Quoi.
Et en fait, typiquement, pour prendre l'exemple du transport, aujourd'hui, c'est assez compliqué de vouloir être... de vouloir faire les choses bien, en fait, parce que c'est beaucoup plus cher de prendre le train, c'est une galère, c'est beaucoup plus long. En fait, tout est fait pour que, finalement, tu prennes l'avion tranquillement, parce que c'est pas cher, parce que c'est simple. Et du coup, voilà, nous, notre truc, ça va être plutôt de raconter, d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, d'essayer de faire comprendre aussi qu'on peut se projeter dans un monde où c'est pas comme ça, parce qu'on n'est pas obligé de se dire « Ah bah c'est comme ça, et en fait on peut rien changer, et en fait ça bougera jamais. » Parce que ça aussi, c'est un truc qui, je pense, qui est fondamentalement en nous, alors qu'en fait c'est faux. Et typiquement, si on prend l'exemple de l'avion, moi je m'en rappelle, hein, j'en discutais il y a quelques années avec des amis, et ils me disaient « Mais tu sais, l'humain a toujours aimé voyager, ça a toujours été comme ça. » Et en fait, ça, typiquement, c'est faux. En fait, nos parents, ils voyageaient beaucoup moins que nous. Ils prenaient, moi, mon père, il a pris l'avion la première fois à 40 ans. Et donc, en fait, il y a plein de... On a plein d'idées préconçues, en fait, sur le monde et sur la façon dont le monde fonctionne. Et l'idée de Climax, et je suis désolé, ma réponse a été un peu longue.
Non, mais
c'est justement d'essayer de nous sortir de ça, de nous questionner là-dessus,
ouais.
Sans faire... des injonctions et sans culpabiliser, exactement, mais plutôt en racontant des façons de voir le monde différemment et peut-être qu'on se dit que peut-être que ça va semer une graine ou semer plein de graines chez plein de lectrices et de lecteurs et qui vont se questionner aussi à leur tour et qui vont peut-être en discuter. Et c'est déjà, nous on aura déjà fait notre part de la mission, en tout cas.
Ouais, et c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, pour passer un message et pour faire adopter des idées, enfin, c'est ce que j'observe. Il faut différents personnages qui ont différents types de discours. Et il y a les culpabilisateurs, mais il y a aussi ceux qui sont là pour encourager, ceux qui sont là pour valoriser. Et je pense que du coup, les marques peuvent aussi s'inspirer de ce genre de stratégie et de voir est-ce que nous, on est plutôt dans un discours urgentiste, est-ce qu'on est plutôt dans un discours entraînant et encourageant, est-ce qu'on est plutôt dans un discours humoristique. Ça, c'est assez passionnant. Et justement, sur ce format newsletter que vous avez donc quand même pas mal pensé depuis le lancement de Tech Trash, généralement, enfin, en tout cas, personnellement, quand j'aborde la newsletter, je distingue le fond et la forme, parce que je trouve que c'est un médium, ou en tout cas un vecteur d'information, qui permet, tu le disais, d'être éditorialisé, de développer un univers, un tone of voice. C'est quoi, sur le fond et la forme, vos grands apprentissages après des années à envoyer des éditions de Tech Trash et Climax?
Alors, c'est...
vaste question.
C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, dans le sens où... je ne sais pas s'il y a une formule
magique.
Tu vois, magique. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique parce que tu sais, voilà, quand tu lances une newsletter, tu as plein de bonnes pratiques. Mm-hmm. Et nous, d'ailleurs, on est les premiers à essayer de les transmettre quand on bosse avec d'autres médias ou avec des entreprises. Typiquement, à leur expliquer qu'il faut que le message soit clair, qu'il faut que la newsletter, je vais dire des règles un peu basiques, mais il faut pas que ça soit pas trop long, il faut que ça soit facilement lisible. Donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques classiques, mais en fait, tu vois, pareil, de dire, il faut l'envoyer toutes les semaines à un certain horaire pour que les gens s'habituent à le recevoir, pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas, créer une sorte de récurrence, voilà, exactement. Mais en fait, il s'avère que régulièrement, tu as des gens qui font exactement l'inverse et où ça marche. Oui. La dernière newsletter que j'ai découverte récemment, là, c'est une newsletter qui s'appelle Letter from an American,
okay.
Qui est une newsletter sur Substack, qui est écrite par une historienne américaine et qui est assez impressionnante parce qu'elle a 1,5 million d'abonnés. Et elle a 100 000 abonnés payants, enfin un truc délirant.
C'est ouf, ok.
Ouais, c'est ouf. Et j'ai creusé, et elle fait 5 millions de CA par an, enfin un truc délirant. Et cette newsletter est vraiment totalement l'inverse de toutes les bonnes pratiques que nous, on va distiller, dont on va parler.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est juste un pavé. C'est un pavé de texte avec quelques notes à la fin, comme si tu prenais un chapitre de bouquin, quoi.
Ok.
Et avec quelques liens, mais tout à la fin. Et mais il s'avère que cette autrice a fait finalement, elle a touché du doigt un truc qui manquait. Elle a réussi à parler à un certain public. Et du coup, j'ai regardé un peu ses interviews et elle explique en tout cas son succès par le fait que ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il y a énormément de médias d'opinion aux États-Unis. Il y en a beaucoup plus qu'en France encore. Déjà en France, on a ces discussions sur les médias d'opinion et on se dit un peu, il y en a trop. Et en fait, les médias, normalement, sont censés aussi. Alors, c'est bien qu'il y ait un peu d'opinion, mais c'est surtout bien qu'il y ait des faits qui soient racontés. Et elle dit, en fait, aux États-Unis, il y a un vrai manque sur les médias qui te racontent des faits. Et donc, elle prend des faits historiques qu'elle va expliquer. Et donc, elle est prof d'histoire, en fait, finalement. Elle fait la même chose que dans ses cours.
Elle fait ses cours, mais... Ouais,
Elle le met un peu en forme, de façon à ce que tu puisses lire. Alors, je ne sais plus si c'est quotidien. Je crois que c'est quasiment au quotidien. Et donc, tous les jours, tu reçois un fait historique que tu peux lire en 10 minutes. Et je pense qu'elle le fait plutôt bien. Et enfin, voilà, tout ça pour dire que... Pour répondre à ta question sur les apprentissages en termes de fond et de forme, je sais pas s'il y a des apprentissages, mais ce qui est sûr, c'est que ça soit elle ou que ça soit d'autres projets qui respectent les bonnes pratiques, en termes de forme, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver à raconter quelque chose qui va intéresser une communauté de gens.
Ouais.
Mais bon, une fois que tu as dit ça, tu n'as pas dit grand-chose.
Mais quand même, ça reste un bon début parce que je trouve que historiquement, le format newsletter, et c'est là que c'est intéressant de voir... comment vous inscrivez dans cette lignée de la nouvelle génération, c'était plutôt un format un petit peu poubelle, entre guillemets, les boîtes partageaient des promotions, des updates.
Oui, ça, c'est la newsletter un peu marketing.
Oui.
C'est vrai que dans les médias, tu avais aussi pendant longtemps, mais ça existe toujours, hein, c'est des médias, c'est des newsletters, tu sais, un peu sommaire, quoi.
Transactionnel, très basique.
Ouais, c'est-à-dire qu'il me semble que tu as encore ça. Alors, tu vois, typiquement, je crois que le Monde font les deux. Ils font à la fois des vrais newsletters éditorialisés, mais ils font aussi, je pense, je ne sais pas si c'est quotidien, mais voilà, c'est-à-dire que tu as les 10 sujets qui sont parus sur le site, et en fait, tu as 10 liens avec des chapeaux. Et ça, évidemment, ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Alors, ça peut en avoir un si toi, ta façon de consommer, c'est de recevoir ta newsletter et d'aller cliquer après sur le site. Ça peut en avoir un, mais c'est pas ce que j'appelle vraiment une newsletter.
Oui.
C'est vrai que nous, on parle là de newsletter éditorialisée.
Ouais.
Parce qu'évidemment, tu as tout un tas de newsletters marketing qui n'ont rien à voir et qui sont là uniquement dans un but promotionnel ou de transaction. Et c'est vrai que nous, c'est pas notre... Nous, c'est vraiment l'idée, c'est de créer des médias dans un sens...
Mais vous le faites pour certaines marques,
ouais,
j'ai l'impression.
On le fait
c'est ça
pour
que
certaines
c'est intéressant
marques.
Aussi.
Ouais, bien sûr.
C'est ça que c'est intéressant. N'importe quoi. C'est là que ça devient intéressant.
C'est ça que c'est. Non, mais affranchissons.
C'est le matin.
Affranchissons-nous de toutes les règles de grammaire et tout aussi. Je pense que c'est bien. C'est la prochaine étape.
Parfait. Merci.
Voilà.
Parole inclusive. Donc, du coup, non, ce que je trouve assez passionnant, c'est de voir que certaines entreprises décident d'aller vers la création de marques médias fortes à travers la newsletter. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
Ouais.
Si tu peux.
C'est vrai que c'est un discours que nous, on tient auprès des marques qui viennent nous voir, c'est de leur dire. Aujourd'hui, en fait, si vous faites une newsletter transactionnelle, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si vous créez un média qui raconte vraiment quelque chose autour de la Alors, ça peut être autour de la thématique. Enfin, évidemment, a priori, ça va être autour de la thématique du secteur dans lequel vous êtes. Eh bien, il y a de fortes chances que vous arriviez à fédérer une communauté, si vous le faites bien. Et ces gens-là, à un moment ou à un autre, vous pourrez les rediriger aussi vers votre activité, vers le service que vous vendez ou que vous proposez. Mmh. Je donne un exemple sur lequel on n'a pas bossé, mais que je trouve hyper intéressant, c'est la newsletter Midnight Trains. C'est une newsletter qui existe, je crois, déjà depuis 2 ans, qui est lancée par un ancien de Kiss Kiss Bank Bank,
okay.
Adrien Aumont, qui en fait est en train de développer une start-up de train de nuit. Alors, et en fait, il s'est dit qu'il allait raconter toute l'histoire de l'entreprise avant qu'elle ait vraiment pignon sur rue, avant qu'elle vende des billets de train à tout le monde. Il va raconter cette histoire-là. Et alors, d'une part, c'est intéressant parce que ça t'emmène dans un peu dans l'univers du train de nuit. Il y a tout un tas de trucs qui font référence à ça. Tu vois, la newsletter est envoyée le vendredi soir à minuit. Il y a plein de bonnes idées comme ça qui te ramènent sur l'univers du train de nuit. Et y a aussi le storytelling de la boîte qui est fait toutes les semaines où il va te raconter, voilà, là on avance, on a levé des fonds, machin. Et ça, je trouve ça hyper bien. Alors c'est encore une autre chose, enfin c'est presque encore une autre approche parce que là il y a une sorte un peu d'approche méta de l'histoire de l'entreprise, du storytelling de l'entreprise. Mais après, en effet, t'as raison, il y a des c'est vrai que là j'en ai pas en tête, mais des newsletters qui racontent. Qui vont raconter une histoire ou qui vont vraiment être des médias sur des secteurs.
Bah moi, j'en ai une en tête, si tu veux.
C'est vrai. Alors,
je les cite tout le temps. Je les ai cités dans mon livre. Je les ai cités. J'ai interviewé la cofondatrice Saskia. C'est Spoon,
ouais,
la newsletter de Virgile.
Excellente newsletter. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est vrai que j'aurais dû y penser,
c'est
bien
trop
sûr,
évident.
Évidemment. Bah oui, non, mais ça, tu vois, c'est un exemple parfait de newsletter qui est hyper bien écrite, qui est hyper intéressante et en fait qui est intéressante que tu sois client ou pas de la boîte.
Ouais.
Enfin, tu vois, ça n'a. Enfin, et c'est vraiment ça le truc qui fait la différence, c'est que tu peux très bien ne pas du tout être un client et ne même pas t'intéresser à ce genre, à l'activité de Virgile.
Ouais.
Et finalement, t'intéresser à la newsletter parce que ça va t'apporter des conseils dans ta vie, ça va t'informer sur. Enfin voilà, sur des problématiques que tu as toi dans ta vie perso, de gestion de ton argent. Et pour le coup, c'est parfait parce qu'à un moment, si pour moi, si un jour tu peux avoir besoin de ce type de service que la boîte propose, y a toutes les chances que tu penses
à Spoon puis à Virgile,
exactement. Ouais. Ouais.
Top of mind.
Ben oui, c'est ça.
Mais ouais, c'est assez passionnant et je trouve que c'est un super format pour ça. Je le dis souvent à la newsletter pour justement rester, se rappeler ponctuellement à la cadence que tu as décidé, au bon souvenir des gens qui te lisent et qui te suivent et de renforcer l'attachement
exactement.
De manière graduelle. Quoi.
Et c'est très différent de l'approche frontale où tu reçois du mailing.
Un texto.
Tu vois, genre en mode achète notre produit, achète notre produit, achète notre produit, moins 50% et qui en fait est aujourd'hui. Tellement, enfin voilà, tellement de boîtes l'ont fait que en fait c'est plus possible et en fait t'as plutôt, enfin la plupart du temps t'as une réaction inverse, justement de te dire je veux plus avoir affaire à cette boîte là, elle est horrible,
ouais.
Ça me saoule, je me fais tout le temps solliciter. Et dans un sens, ce storytelling sur des besoins que tu peux avoir, enfin voilà, vraiment de créer un média, c'est beaucoup plus smart et c'est évidemment ce qu'il faut faire quand t'es une marque aujourd'hui, je pense.
Ouais. Avec, bien évidemment, garder en tête tes ressources et tes moyens. Mais je trouve que vous illustrez le fait que quand on a un cerveau bien fait, ou en tout cas une ligne éditoriale un peu sympa, on peut réussir à aller assez rapidement dans des volumes d'audience impressionnants. Je ne sais plus quels étaient déjà les chiffres de Tech Trash, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup, un paquet de lecteurs.
Ouais, on a 35 000 lecteurs, mais en fait, honnêtement, ce n'est pas si impressionnant que ça. Par rapport à notre historique, mais je pense que ça vient du fait qu'on a enfin tu vois, je te racontais tout à l'heure un peu tout ce qu'on a fait et donc on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect créatif et sur la production édito et on se concentre assez peu sur typiquement sur la croissance, sur le développement. Et
c'est principalement organique,
c'est que organique en fait, c'est vraiment que organique. Et c'est vrai qu'on a une grosse marge de progression, je pense, sur tous les produits médias qu'on fait, parce que en fait on les a jamais vraiment enfin on en fait assez peu la promo en fait finalement les gens qui les connaissent c'est parce qu'ils les connaissent de bouche à oreille ou enfin c'est quasiment que ça ou alors ils sont tombés par hasard sur notre page Instagram que si c'est le cas de Climax ou sur un post LinkedIn tu vois mais c'est finalement on en fait beaucoup beaucoup moins que les autres médias sur nos secteurs respectifs que ce soit la tech ou l'écologie
ouais
et du coup à la fois, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on, enfin, régulièrement, tu vois, avec Lorraine, on en parle et on se dit, tiens, il faudrait qu'on se concentre plus là-dessus. Et puis après, bon, on se dit aussi que, bon, on a quand même une marge de progression. C'est cool dans un sens de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est des trucs qu'on a gagnés, pas forcément en allant chercher les gens, mais parce que les gens sont venus nous lire, parce qu'ils nous ont découvert par des gens qui leur ont dit, ah tiens, va voir tel média, c'est cool, c'est différent.
Oui.
Et voilà, mais c'est un gros chantier aujourd'hui et c'est vrai que dans les mois qui viennent, il va falloir qu'on s'y attelle à un moment ou à un autre parce que voilà, tu vois, c'est aussi en ayant plus de lecteurs que tu as plus de gens qui vont après acheter ton magazine ou tu as plus de boîtes qui te découvrent et qui vont faire appel à tes services. Donc le modèle économique aussi de tout le projet, enfin de tous les projets qu'on a dépendent aussi de la croissance de l'audience.
Bien sûr.
Même si on est décroissant.
J'allais dire, le mot-clé.
Même si on est décroissant dans la pensée. Dans la pensée et puis même dans la posture sur l'économie en général. Mais là, on est plus croissantiste dans l'audience. Ça, c'est vrai.
Un petit peu, en tout cas. Compréhensible. Mais je pense que c'est une belle leçon, ceci dit, de se dire qu'en fait, c'est plus intéressant de commencer par la qualité, le fond. Et ensuite, d'aller chercher une audience une fois que tu es à l'aise sur ta tonalité éditoriale, que tu as convaincu déjà. Une première grosse tranche d'audience. Mais ça m'amène à peut-être une dernière question pour toi, que je trouve qui me taraude, parce que vous aviez des lectorats assez engagés sur Tech Trash et Climax, mais vous avez réussi aussi à les faire se rencontrer, ces lecteurs, au cours d'événements un peu fun, assez éditorialisés. D'ailleurs, je ne sais pas si les deux lectorats se sont rencontrés, les deux communautés se sont superposées, mais j'irais jusqu'à dire que vous avez réussi à créer des communautés et passer d'un email à une communauté. Comment on fait ça concrètement ?
Alors, comment on crée une communauté ?
À partir d'un email, c'est surtout
ça. À partir d'un email. C'est marrant parce que on fait des soirées en effet régulièrement pour Climax, pour Tech Trash. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On a fait une à l'époque du lancement du livre. Donc ça remonte déjà, mais c'était hyper cool. Et donc tout ça pour dire que l'avant-dernière soirée Climax qu'on a faite, je discutais avec un journaliste de Combini que je connais assez bien, qui me disait « Ah tiens, c'est marrant, avec Tech Trash et Climax, vous avez une communauté. Nous, on n'a pas de communauté, on a une audience. » Et c'est vrai que sur le coup, je n'avais pas fait la distinction, mais en fait, tu as vraiment des médias qui ont une audience. Et c'est vrai que Combini, c'est un bon exemple. Ils ont une grosse audience, d'ailleurs. Mais c'est plus dur, je pense. Alors, ils doivent aussi avoir une communauté de gens qui les suivent vraiment et qui sont attachés à leur marque. Mais c'est vrai que nous, on a une plus petite audience que Combini, et peut-être même que d'autres médias dans les secteurs dans lesquels on est. Mais par contre, on a un attachement assez fort de nos lecteurs et de nos lectrices. Et c'est vrai que quand on fait des événements, bah, on peut assez facilement réunir 200, 300 personnes qui viennent parce qu'ils sont attachés au ton, parce qu'ils sont attachés à l'univers de ce qu'on raconte. Je pense que, enfin, je t'avoue, je ne saurais pas répondre à cette question.
Mais ils interagissent entre eux, ces gens-là aussi, non ? Ils ont peut-être envie aussi de se rencontrer
au-delà
de la marque.
Je pense que le ton et le fait d'être assez différenciant dans la proposition éditoriale, c'est hyper important. Moi, je sais que quand j'étais petit, je lisais des magazines de jeux vidéo. Alors, je n'ai jamais été trop fan, moi, de jeux vidéo. Mais il y avait un magazine que je lisais, je crois que ça s'appelait Player One, mais ça remonte, hein, c'était dans les années 2000, enfin 80, ouais, 90 même, j'allais dire.
Ça ne rajeunit 2000. Pas tout ça.
Comment ?
Ça ne rajeunit pas
ça
tout
ne
ça.
Ça ne rajeunit pas. Et en fait, moi j'aimais bien les jeux vidéo, mais en fait je lisais surtout le magazine parce qu'il y avait un ton et parce que en fait, tu avais des fois dans les critiques de jeux, tu avais des journalistes qui faisaient des blagues en faisant des références aux autres journalistes ou machin. En fait, il y avait vraiment un ton spécial et pour moi, en fait, typiquement, bah, à l'époque, bon, j'étais jeune, mais j'aurais adoré rencontrer ces gens-là. Je me disais, mais c'est trop bien, ils doivent être trop sympas, ils doivent être trop cool. Et je pense que probablement, on a essayé de refaire un peu ça avec Tech Trash, avec Climax, de créer ce ton un peu particulier qui fait que tu te dis, tiens, les gens ont l'air sympas, j'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien rencontrer d'autres gens qui lisent ça parce que peut-être que c'est des gens qui me ressemblent. Et donc oui, je sais plus quelle était ta question, mais en tout
cas, comment t'arrives à les faire se rencontrer? Peut-être qu'un jour il y aura des mariages tech trash et climax. Ça serait jamais
génial,
à l'abri.
Ça serait génial, ouais. Ben on n'est pas à l'abri. Mais oui, je pense que tu les fais se rencontrer. Bah là, pour le coup, oui, tu fais en créant des événements et en créant des moments. En tout cas, voilà, on a ces moments de... À chaque fois, c'est les lancements des fanzines Climax. Et donc, à chaque lancement, on fait un événement, une soirée.
Ouais.
Et ça, c'est plutôt cool parce que, du coup, il y a tous les lecteurs. Enfin, tous les lecteurs. Il y a une partie, en tout cas, des lectrices et des lecteurs qui viennent, qui sont parfois des gens qui lisent aussi Tech Trash, mais pour beaucoup, pas du tout. Parce qu'il y a quand même une différence dans l'électorat. Et parce que sur Tech Trash, on voit qu'il y a quand même des gens vraiment qui s'intéressent à la tech, qui ne sont pas encore vraiment convaincus ou convertis à l'écologie. Et sur l'écologie, tu as des gens aussi qui vraiment s'en foutent de la tech et que ça n'intéresse pas. Même si nous, on pense que les deux sujets sont hyper liés parce que c'est deux sujets en fait, qui te projettent quand même vachement dans le futur et sur lesquels il faut réfléchir parce que si on veut inventer le monde de demain, et peut-être le réinventer par rapport aux projections qu'on a d'aujourd'hui, en fait, c'est deux sujets essentiels. Tu vois, à la fois la tech avec les avancées technologiques, l'IA et tout ça, sur lesquels il faut vraiment se questionner.
Ouais.
Et l'écologie, pareil, on est obligé de se questionner parce que si on ne fait rien et qu'on ne change pas, de toute façon, c'est finito. Donc,
bien sûr.
Donc, nous, on a tendance à penser que c'est deux sujets qui sont assez liés. Et je pense qu'il y a d'autres lecteurs et lectrices qui le pensent aussi. Mais donc voilà, pour tout ça, pour te répondre, on fait des événements aujourd'hui. Là, on a le projet aussi de créer un canal de discussion, probablement sur Telegram. Je ne sais pas encore si ce n'est pas encore confirmé, mais je pense que ça sera sur Telegram. Parce qu'on se dit quand même que on pourrait interagir plus avec notre lectorat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça, c'est peut-être un truc dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est que la newsletter, c'est un format qui est quand même assez vertical parce que tu parles à ton lectorat, mais du coup, tu parles en direct à ton lectorat. Et c'est pas comme quand tu fais un post sur un réseau social où tu postes un truc et enfin, après, tout le monde peut commenter.
Il y a moins de gens qui réagissent et qui répondent à l'email déjà.
Voilà, là, les gens, s'ils te répondent, ils te répondent qu'à toi, a priori. Alors, ça arrive.
Et encore, oui, c'est assez...
Mais ça peut arriver. Mais par contre, ils sont pas en train de discuter sur la place publique comme c'est le cas sur les réseaux sociaux. Alors, à la fois, c'est une bonne chose parce que ça te permet d'éviter tout un tas de haters, de gens qui de trolls, et tu vois, nous avec Tech Trash, franchement, on a aucun hater, quoi. C'est un truc de fou, enfin c'est
pas mal,
ouais, c'est vraiment génial. Et même Climax, dans un sens, on n'a pas de haters alors qu'on pourrait en avoir, surtout sur l'écologie, c'est quand même un sujet clivant, en tout cas de la façon dont les gens en parlent, c'est clivant. Et du coup, quand tu fais... Enfin, tu vois, typiquement, d'autres médias, confrères qu'on connaît bien, comme Bon Pote, Bon Pote a beaucoup de haters. Tu vois, il nous le raconte régulièrement, quoi. Et parce que lui...
C'est radical dans son propos et clivant.
Lui, il a son site, et puis après, il est sur les réseaux sociaux à fond.
Ouais.
Et c'est vrai que la newsletter te permet d'éviter ça. Mais... par contre, en tout cas, le petit bémol, c'est que du coup, t'es en direct avec ton lectorat et t'as pas forcément ce sentiment de communauté. Et là, on se dit, en fait, ça serait intéressant d'avoir une plateforme. On est en train de réfléchir. Ça sera peut-être Discord, ça sera peut-être Telegram. On est en train de voir. Mais un endroit où les gens, les lecteurs de Climax, pour l'instant, et peut-être que ça sera plus tard, ceux de Tech Trash aussi, peuvent se retrouver, discuter sur des sujets, échanger. Parce que c'est vrai, comme tu disais, on se dit qu'il y a certains d'entre eux qui ont peut-être envie de se rencontrer, qui ont peut-être envie d'échanger, échanger des idées, des refs, tout un tas de trucs, et ils pourront le faire dans un groupe comme ça.
Ok. C'est une bonne manière de conclure, et je pense que d'ailleurs c'est assez représentatif de l'univers des médias, mais aussi des marques médias, et c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un enjeu au-delà de transmettre des messages de marque ou de véhiculer des opinions, de donner la parole aux gens qui consomment tes contenus, parce que finalement, ces gens-là souhaitent ou, par la force des choses, finissent par prendre de plus en plus de place. Et je trouve ça assez rigolo de voir, notamment dans le secteur des médias, qu'il y a de plus en plus de Telegram, de petites communautés d'ambassadeurs, de lecteurs VIP qui se créent. Je te propose qu'on prenne rendez-vous dans 2-3 ans, une fois que vous aurez lancé cette commu.
Mais oui, mais c'est vrai que t'as raison. Hein. Il y a plein de communautés. Il y a des communautés sur Instagram aussi, des groupes de discussion. C'est intéressant. Alors après... Il y a certains groupes de discussion où moi, je ne vois pas trop d'intérêt. En fait, il y a toujours ce truc. Alors, des fois, tu as des... typiquement, si je prends l'exemple d'Instagram, tu as des groupes de discussion, mais qui sont très verticaux encore une fois, oui. où finalement les gens peuvent juste liker. Donc là, je sais pas si vraiment... ça a vraiment un intérêt. Bon, peut-être.
C'est pas
parce
vraiment
que
communautaire, ouais.
Si tu peux peut-être te dire, tu vas dans ce groupe de discussion, tu vas avoir des infos que tu n'auras pas ailleurs. C'est peut-être le cas. Hein. Et après, tu as aussi des groupes où c'est le bordel. Et à la fois, ça peut être cool, mais à la fois, ça peut être aussi des fois un peu, tu vois, un peu rébarbatif où tu te dis, OK, mais si je vais dans ce groupe de discussion, il y a tellement de messages, il y a tellement de gens qui disent tout et n'importe quoi qu'en fait, je sais pas par où prendre le truc. Et en fait, tu vois, ça te casse l'envie, en fait, de rentrer dans le groupe parce qu'en fait, tu sais juste pas comment interagir. Trop de gens qui y échangent. Et ça, c'est vrai que c'est le cas pour certains groupes de discussion, notamment d'associations écolo, où à la fois, tu as un foisonnement de gens qui balancent 1000 idées à la minute. Mais du coup, c'est vrai que quand c'est pas ton cas, tu as des fois un peu de mal à trouver ta place et ne serait-ce qu'à suivre tout le contenu qui passe parce que du coup, tu as des tonnes de discussions et de gens qui postent. Voilà, là, je sais pas encore si tu trouves ce que tu viens chercher. Et c'est toute la problématique, tu vois, de lancer un groupe, c'est comment est-ce que tu le fais ? Comment faire pour que les gens qui participent au groupe, à la communauté, puissent se sentir bien, ne soient pas d'un coup dépassés par 1000 messages et se disent « Waouh, c'est trop pour moi ».
Ouais.
Ou alors, l'inverse, c'est juste qu'il ne se passe rien dans le groupe et ça, c'est pas terrible non plus parce que...
Rien.
En fait, et du coup, il faut prendre un peu de temps, il faut modérer, il faut mettre un peu d'input là-dedans et voilà, on est en plein dans ces réflexions-là, donc probablement que si on se reparle dans deux ans,
au prochain épisode,
a priori, on aura craqué ce truc-là, et j'espère, a priori, qu'on aura encore lancé un autre média ou qu'on aura fait plein d'autres trucs. Tu vois, c'est marrant, tu pourrais faire une sorte de capsule temporelle.
Oui, c'est clair.
Genre, comment est-ce que tu te vois dans deux ans et puis on refait le podcast dans deux ans ? Et bah écoute, en tout cas, moi, j'espère qu'on sera toujours là avec nos médias. Qui auront peut-être évolué, enfin je le souhaite, et peut-être qu'ils n'auront pas tant évolué que ça, mais du coup ça veut dire qu'ils parleront peut-être toujours aux lecteurs, et peut-être qu'on aura lancé autre chose, ça pour le coup je ne sais pas encore.
On verra. Suite au prochain épisode.
Exactement.
Merci Dan pour ton
merci
témoignage
beaucoup,
et
Noémie.
Tous tes conseils.
Merci.
Salut.
À bientôt.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Comme vous avez dû le comprendre, je suis une grande fan de Tech Trash et de Climax. Et j'apprécie tout particulièrement la qualité et le travail mis par Dan et son associé Lorraine dans le fond, c'est-à-dire la ligne éditoriale et son originalité, plutôt que de se concentrer sur des logiques de volume dès les débuts du projet. Si je devais en retenir une bonne pratique, ce serait de prendre le temps de trouver son positionnement, de le tester auprès de son audience, et une fois ce dernier éprouvé, de se lancer à la conquête du marché en s'appuyant sur l'attachement de cette audience comme l'a fait Dan. C'est tout pour cet épisode, et je vous retrouve dans deux semaines dans The Storyline.